Bonjour à toutes et à tous, ici Boshra Pourti et bienvenue sur Heya. En arabe, Heya signifie « elle ». C'est parce que ce mot n'est pas suffisamment utilisé pour parler de réussite et d'ambition féminine que j'ai décidé de lancer ce podcast. Les inégalités et la sous-représentation liées au genre sont malheureusement une réalité, et une approche intersectionnelle ne fait qu'amplifier ces phénomènes. Chaque épisode est une conversation où j'invite une femme de culture arabe à venir partager son histoire et évoquer sa réussite. Mes invitées ont toutes des backgrounds et trajectoires différentes. Elles sont journalistes, entrepreneurs, écrivaines, artistes ou encore médecins, et vous serez, je l'espère, inspirées par leur réussite. L'objectif de ce podcast est double. Tout d'abord, promouvoir une image différente de la femme arabe en mettant en lumière ses parcours exceptionnels, mais aussi aider les plus jeunes ou celles en quête de renouveau à trouver des rôles modèles et ambitionner leur avenir. Ma conviction ultime est que la seule manière d'y croire, c'est de le voir, ou en l'occurrence l'entendre. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à prendre quelques minutes pour le noter 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. C'est la meilleure manière de le soutenir. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre invité du jour. Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Léa Sfer, artiste de table et créatrice de contenu lifestyle. Léa est également entrepreneur et a lancé sa marque d'art de la table, By Léa Sfer. Dans cet épisode, Léa revient sur son enfance, son arrivée en France à l'âge de 7 ans et évoque la manière dont sa famille a fui un Liban en guerre. Elle partage avec nous ses premiers souvenirs et décrit son émerveillement face à toutes ces petites choses qui semblaient pourtant si basiques aux autres petits-enfants. Elle retrace sa carrière, du droit aux relations presse, en passant par l'influence et l'art de la table, et nous raconte comment elle a réussi à faire de sa passion un métier. Nous avons également discuté de ses débuts sur Instagram et de son rapport aux réseaux sociaux. Enfin, Léa se livre sans filtre sur la maternité et les expériences douloureuses auxquelles elle a été confrontée. Sans plus attendre, je laisse place à la Heya du jour, Léa Sfer. Bonjour Léa.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que c'est un peu les vacances et que tu es un peu multitask, mama, working mom, etc. Et j'apprécie vraiment que tu aies pu trouver une petite heure pour nous, pour discuter et partager ton parcours.
Merci beaucoup de me recevoir.
Avec grand plaisir. Léa, la tradition sur Heya, c'est de commencer par les origines. Si tu es d'accord, est-ce que tu peux nous parler de ton éducation, l'environnement dans lequel tu as grandi, le type d'éducation que tu as eu?
Donc moi, je suis née au Liban et j'ai grandi dans un milieu francophone, mais libanais au Liban, c'est-à-dire grandi jusqu'à l'âge de 7-8 ans, comme ça. Et ensuite, on est venu en France à cause de la guerre. Et ma mère avait de la famille à Aix-en-Provence. La famille de ma mère a toujours grandi à l'étranger, comme beaucoup de Libanais. Et la famille de mon père était beaucoup plus basée au Liban. Et donc, nous avons fui, on a atterri à Aix-en-Provence. Et puis, quelques mois après, on est arrivé à Paris, dans le 16e arrondissement. J'étais scolarisée là-bas jusqu'à la fin de mes études. Enfin, j'ai fait Assas, c'est du droit. Voilà, comme j'ai un parcours comme beaucoup de Libanais qui fuient le Liban à cause de quelque chose. Soit c'est une explosion, soit c'est des attentats, soit c'est des problèmes, soit c'est la guerre. Il y a toujours quelque chose qui fait que les Libanais se retrouvent à l'étranger, et même ceux qui rêvent de revenir. Moi, je n'ai jamais vraiment vécu, donc je ne peux pas dire que je rêve de vivre au Liban, mais j'en connais énormément. J'ai beaucoup d'amis, leur rêve, c'est de vivre au Liban.
Et Léa, tu as souvenir un peu de cette arrivée en France à 7-8 ans? Tu te souviens un peu de ta vie avant au Liban? J'imagine 7-8 ans, on a encore quelques souvenirs, on est assez grande pour se souvenir. Et tu l'as vécu comment, cette arrivée en France? C'était un déchirement? C'était...
Je l'ai vécu de deux façons. Je rêvais de partir, parce que quand tu as des bombardements, quand tu as moi, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, bien sûr, je peux pas le comparer parce que j'ai absolument pas vécu ce que peuvent vivre en ce moment les Palestiniens de Gaza. Mais je sais ce que c'est que les bombardements, je sais ce que c'est que les abris, je sais ce que c'est que les gros bombardements, donc je sais ce que c'est. Et du coup, j'avais vraiment, je voyais qu'autour de moi, tout le monde disait « Ah bah, on part aux États-Unis, on part au Canada, on part à Chypre, etc. » Et moi, je disais à ma mère, je me rappelle, je disais, mais quand est-ce que nous, on va partir? Moi aussi, je veux partir. Moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, je veux partir. Tu vas à l'école, mais tu sais pas si tu vas revenir. Vraiment, enfin, dans le sens où tu vas à l'école, mais tu sais pas s'ils vont venir te dire, ah bah, désolé, mais là, c'est terminé. Il faut repartir. Partir à la maison, attention, vous ne pouvez pas partir, le bus ne va pas arriver, il faut attendre chez des amis, que vos parents viennent vous chercher. S'ils arrivent à venir vous chercher, tu vois, toutes ces choses, beaucoup de Libanais l'ont connu. Et donc, quand je suis arrivée en France, je me rappelle qu'il y a de alors moi, je voyageais depuis que je suis bébé, hein, c'est-à-dire que je me rappelle que je passais des vacances en France, j'avais cette chance où mes parents m'avaient emmenée en Autriche, en France, en Suisse, quand j'étais petite, donc je me rappelle, mais c'est pas la même chose quand tu déménages. Et je me souviens on a pris un bateau, qu'on est passé par Chypre et qu'on avait peur. Et ma mère, elle avait l'angoisse, elle se disait, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que, franchement, pardon de dire ça, mais même quand tu es un peu plus privilégié que d'autres, fuir, ça fait toujours peur parce que tu fuis, t'as pas toujours tout qui t'attend. Et nous, tout nous attendait pas. Mes parents allaient devoir reconstruire. Et donc, quand on est arrivé, donc par Chypre, etc., ensuite, je ne sais plus exactement, mais après, on a atterri en France, on a été à Aix-en-Provence. Je me souviens que mon père est resté au Liban, il allait nous rejoindre après. Ma mère nous a scolarisés tout de suite. Et donc, je suis rentrée en plein milieu d'une année scolaire. Et je me souviens qu'on m'avait présenté, bah, un peu comme quand tu lis les news aujourd'hui. Alors, on a Léa, c'est une petite fille qui nous vient directement du Liban, qui a vécu la guerre, il faut bien s'occuper d'elle. On a été très gentils, hein. Ils ont été très gentils avec moi, il faut bien s'occuper d'elle. Et tout le monde m'a regardé, genre, comme un extraterrestre, ça fait ce que c'est. Donc, on te regarde et après, on te demande si tu as déjà vu une voiture, est-ce que c'est que, je sais pas, des trucs, voilà, tu vois. Et puis, on grandit avec ce cliché de la petite fille qui a fui la guerre. Et tu atterris ensuite à Paris. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Quand on est arrivé, je crois, en Suisse, je crois on avait fait un stop en Suisse, un truc comme ça. Je me souviens avoir dit à ma mère, mais maman, mais je comprends pas, ils ont l'électricité tout le temps. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Pourquoi on n'entend pas le bruit des générateurs? En fait, au Liban, tu as des coupures d'électricité et tu as tout de suite le générateur qui prend le relais et tu entends le bruit du moteur. Je lui dis, mais pourquoi il n'y a pas le bruit du moteur? Il m'a dit, mais parce que l'électricité, elle est là tout le temps. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Je me rappelle aussi que j'avais été hyper surprise de pouvoir boire d'un robinet, de l'eau d'un robinet. Et on me demande, est-ce que vous voulez de l'eau plate ou de l'eau gazeuse? Je n'avais pas compris la question. Et je regarde ma mère. En fait, on ne connaissait pas l'eau gazeuse. C'est pas dans les traditions de boire de l'eau. Tes parents ne boivent pas d'eau gazeuse, en fait. Et je me rappelle quand on m'avait dit, est-ce que tu veux de l'eau gazeuse? J'avais trouvé ça hyper bizarre. Et encore un autre truc, après, quand j'arrive à Paris, on est dans le métro et je vois dans une gare deux personnes qui s'embrassent, un homme et une femme. J'étais tellement choquée. Et j'avais jamais vu ça parce que le Liban est un pays hyper moderne, avec un super lifestyle et tout, mais quand même, il y a de la pudeur. Surtout quand il y a des enfants, on ne s'embrasse pas devant des enfants. Donc ça, ce sont des petits événements dont je n'oublierai jamais de ma vie. Et ensuite, tu rentres à l'école, pareil. Comme tu as eu des moments où tu as été dans les abris, tu ne suis pas tout le temps tout, et les profs te mettent une étiquette. Ah oui, parce que toi, tu n'as pas été à l'école à ce moment-là, ou tu vois, des trucs comme ça. Et souvent, la question, donc vous étiez sur des chameaux, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une pomme? On me posait des questions comme ça, mais parce que ils ne savent pas, les enfants souvent ne savent pas, tu vois. Et je pense qu'avant, on était encore moins avec moi.
Ouais, il n'y avait pas les réseaux sociaux, la télé comme maintenant. Ouais.
Donc, tu deviens donc on comprend pas parce qu'on te regarde, on se dit que tu leur ressembles, tu es hyper, tu t'habilles finalement pareil, mais. Il y a des choses, t'as vécu des choses différentes, tu vois. Tu m'as demandé la question de l'identité. C'est sûr que comme énormément de personnes, bien sûr que j'ai eu une crise identitaire à un moment donné. Ça, c'est certain. Je pense que même quand tu nais dans un pays étranger, et que même si tes parents, par exemple, mes parents ont toujours tout fait pour qu'on s'intègre, c'est-à-dire que c'était toujours notre faute s'il y avait quelque chose, c'était jamais la faute des autres. Tu vois, parce que il fallait être reconnaissant et moi je suis toujours comme ça. Et j'apprends ça à mes enfants. Par exemple, là, on vit à Dubaï. On est reconnaissant. Quand on est en France, on est hyper reconnaissant à la France de nous avoir accueillis, de nous avoir ouvert les portes, de m'avoir donné une éducation qui est... J'avais une très bonne éducation au Liban. Je ne peux pas dire qu'elle m'a donné une meilleure éducation, mais elle m'a offert une éducation gratuite. Elle m'a offert... je suis devenue française. Tu vois, toutes ces choses-là, ces privilèges dont on ne se rend pas compte. Moi, j'ai grandi avec des parents qui m'ont jamais laissé oublier ça. Et du coup, j'en suis toujours reconnaissante et je le transmets à mes enfants. Mais par exemple, tu as des crises identitaires. Parfois, je ne savais pas si je devais dire que j'étais libanaise. Tu vois, est-ce que je dois dire que je suis française? Est-ce que je dois dire que tu es française? Ah, c'est d'où exactement? Enfin, genre, on ne dirait pas que tu es vraiment française, que tu touches. Ça, je sais que tout le monde l'a vécu, donc c'est rien, mais on l'a tous vécu. J'en souffrais pas. Très honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'a fait souffrir, mais vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à souffrir, entre guillemets, du fait de manquer de... Par exemple, tous les dimanches, au Liban, tes parents reçoivent tout le temps du monde, les dimanches. Tous les dimanches, c'est multiculturel au Liban, multireligieux, je dirais. Donc les parents, que ce soit samedi ou dimanche, ils vont soit au resto, soit ils reçoivent leurs amis chez eux. Et en général, nous, on recevait tout le temps, enfin, on allait chez ma grand-mère. Le dimanche, tu as toute la famille avec les amis, tous les dimanches. Donc moi, je sais que j'ai grandi. Chaque dimanche, je disais à mes parents, qui vient à la maison? Et s'il n'y avait personne, j'avais une crise d'angoisse. Et dans le 16e arrondissement, tu grandis aussi avec d'autres communautés, dont la communauté juive. Donc moi, je grandis avec beaucoup d'amis qui sont de la communauté juive, des amis d'enfance jusqu'à maintenant. Et je les vois se réunir tout le temps, à voir ce que moi j'ai pu en fait. Toute leur famille, leurs tantes, leurs oncles, leurs grands-parents. Moi, j'ai toujours vécu ça et moi, je l'ai plus. Et on commence, tu sais, on m'invite une fois. Je trouve ça trop beau, ça me rappelle tellement de souvenirs. Et tout le monde me demande, est-ce que t'es folle? À chaque fois, je m'appelle Léa Sfer. T'es folle? Non, je suis pas folle. Puis, je suis française, je suis libanaise. Pourquoi je suis pas ceci? Pourquoi j'ai pas ma famille? Voilà. Ça, je m'en rappelle pendant quelques années, j'en ai souffert.
Ah, mais c'est très dur de partir de son pays, d'être déraciné. Et puis, il y a quand même ce changement de regard. Comme tu disais, tu nais dans un pays où tu fais partie de la masse, où il y a ta famille, où tu es la norme. Et là, tu deviens un peu la bête de foire. Excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est un peu, comme tu dis, ça a l'air d'avoir été plutôt bienveillant dans ton cas et plutôt gentil. Mais c'est difficile pour une petite fille de 8 ans, 10 ans, quel que soit l'âge, de porter cela. Et à quoi rêvait cette petite Léa? Est-ce que tu te souviens un peu des rêves de petite fille, j'aimerais devenir ci, j'aimerais devenir ça?
Franchement, je ne savais pas ce que je voulais faire comme travail, honnêtement. Ce que je sais, c'est que je pensais que quand j'allais arriver en France, si un jour j'allais en France, que j'allais devenir automatiquement blonde aux yeux bleus. Je me rappelle que je disais à ma cousine, tu te rends compte que moi, j'arrive en France bientôt, en fait, c'est génial parce que du coup, c'est sûr que je vais être blonde. J'étais sûre de ça. Je savais que je voulais me marier. Par contre, je voulais me marier avec un mec grand parce que comme ça, je suis sûre que mes enfants vont être grands. Parce que moi, je suis petite. Et j'avais pas d'ambition étant petite plus que ça, c'est-à-dire de travail. Franchement, c'est venu après. Je sais que j'étais un peu je le dis bien sûr avec beaucoup d'humilité, j'étais un peu leader, c'est-à-dire je sais que c'était toujours moi qui disais à tout le monde, venez, on fait ça, on fait ceci, on fait cela, machin, etc. Je sais pas si c'est parce que j'étais la plus petite de taille, il fallait que je me fasse je sais pas. Ah, voilà. Et ensuite, je sais que vers l'âge de 15-16 ans, je commençais à dire, j'ai envie d'être avocate. Et parce que je veux défendre les gens contre les criminels, je voulais défendre les oppressés, les tu vois, et j'ai fait du droit en fait. J'ai donc fait du droit à Assas, j'ai eu mon master, j'ai passé mes examens du barreau, et sauf que j'ai fait un master en droit de la propriété intellectuelle. Et donc, quand je me retrouve dans un cabinet d'avocat en stage, je me rends compte qu'en fait, je suis en train de faire de la procédure qui n'a rien à voir avec ce que j'ai rêvé avant. Je ne plaide pas du tout. Mais mon rêve, c'est de faire de la prod.
Et du coup, tu exerces quand même en propriété intellectuelle, pardon ?
Du coup, je fais une crise existentielle.
T'as quel âge à ce moment-là ? Une vingtaine ? Une petite vingtaine ?
Ouais, je sais plus. Dans la vingtaine. Mes parents étaient super fiers. Tu vois, t'es à ça, c'est tout. Genre, ils racontent à tout le monde. Et moi, qui rêve que d'une chose, c'est d'arrêter. Alors que j'ai même pas commencé. Et donc, je veux arrêter, je veux faire de la mode. De la mode ? Mais c'est hyper superficiel, mais mon Dieu, mais j'ai une fille tellement superficielle, mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi t'as fait toutes tes études, t'as perdu ton temps, blablabla. Pendant, et moi, je pleure et je fais des recherches. Et je lui dis, je rêve de parler italien en plus. Elle me dit, mais genre, elle me dit que je suis complètement...
D'où ça sort tout ça ?
Et je refais un master en luxe. Ma mère, bien, je t'épargne les détails, mais vraiment, c'était... Je me suis disputée, tout ça, mais j'ai quand même fait un master en management du luxe, enfin un métier du luxe, franco-italien. Et là, j'ai intégré le milieu dont je rêvais.
Et là, ça confirmait ton coup de cœur pressenti.
Je n'étais pas une designer, hein. J'aimais le marketing du luxe, mais j'avais tout le temps, je me rappelle, j'avais tout le temps des idées, tout le temps je présentais des trucs, genre je me prenais la tête. Après, on était en Italie avec mon master. J'ai dit, putain, il faut absolument que j'apprenne l'italien. Et de fil en aiguille, j'étais en Italie, mais là, je vais aussi te passer les détails parce que c'était ouf la manière dont j'étais à Milan. Et je me retrouve dans l'industrie du luxe, à Paris. Et après, j'ai commencé à travailler dans le milieu du luxe.
Ton apparition, entre guillemets, sur Instagram et les réseaux sociaux, c'était à ce moment-là ?
C'était en 2012, c'est-à-dire Instagram venait de sortir. Donc, imagine, on te dit, donc moi, je suis en 2012 à Dubaï. Je suis venue accompagner une copine.
Donc, tu n'habitais pas encore à Dubaï ?
Pas du tout. Je suis juste venue parce que c'était le début où tu commences à entendre parler de Dubaï. Il y avait des salons, des trucs de luxe, tu vois, mais c'était le tout début. Et elle me dit, tu viens avec moi à Dubaï ? Et j'entendais des gens, et mon frère était venu vivre à Dubaï, venait d'arriver à Dubaï, et j'entends des gens qui commencent à dire, on va à Dubaï. Je dis, ok, je vais venir à Dubaï. De fil en aiguille à Dubaï, je rencontre des copines, des locals, des Émiratis, qui sont aujourd'hui devenues mes meilleures amies, ou en tout cas parmi, on va dire, de très très bonnes amies à moi, que je connais donc depuis 2012, et qui sont devenues très successful, ça c'est ouf. Et donc, je rencontre une par hasard, et elle me dit, viens avec moi à Global Village. C'est un truc que je n'oublierai jamais. Donc, on va à Global Village.
Global Village, qui est, pour ceux qui ne sont pas à Dubaï ?
Alors, Global Village, c'est comme si je te disais, c'est un énorme, c'est pas un marché, mais c'est un endroit où tu as des stands de tous les pays du monde entier qui vendent les produits locaux de leur pays, mais vraiment du monde entier, c'est-à-dire même du Zimbabwe, de partout. Et avec des animations, des stands de bouffe, il y a des trucs pour enfants, bref, à l'époque. Et donc, elles me disent, est-ce que tu veux venir à Global Village ? Ça a ouvert il n'y a pas longtemps, c'était nouveau. Je dis, ah, ok. Et on est à Global Village devant le stand du Yémen. Tu vois à quel point je me souviens tellement, c'est un truc que je n'oublierai jamais de ma vie. Et ma copine, qui s'appelle Randel Bassam, qui aujourd'hui est la fondatrice avec sa sœur et une autre personne, sont les owners et les fondateurs de Salt, les burgers Salt, qui sont, c'est genre une institution à Dubaï, tu vois. Elle prend une photo du stand parce qu'il y avait plein de miel et je sais pas, des produits locaux. Et moi, je prends aussi une photo avec mon téléphone et elle me montre sa photo. Je fais, pardon, c'est possible que ta photo soit.
Comment t'as fait ça?
C'est une app, j'ai downloadé une nouvelle app qui vient de sortir qui s'appelle un Instagram. You can change, tu peux changer les couleurs de ta photo. Tu peux modifier les couleurs et filtrer les couleurs de ta photo. T'imagines qu'aujourd'hui, comme c'est un truc tellement normal. En 2012, c'était ouf. J'ai dit, mais merde, je m'en rappelle, j'ai pas d'iPhone. Et it's only iPhone. J'ai été acheter un iPhone. Non, mais tu te rends compte,
T'étais déjà bien influencée.
Ouais. J'ai été influencée tout de suite tellement, c'était dingue. Et
Je rentre en France, que je rentre en France 3-4 jours après, j'achète un iPhone, je lui envoie un message, je lui dis, mais c'est quoi la app déjà? Elle me dit Instagram. Je download tout de suite. Et je m'inscris, Léa Sfer, mais je sais pas, je sais pas à l'époque que c'est follower, et tu vois. Et surtout que elle, ma copine, qui est, en fait, elle est saoudienne, mais elle vient de Dubaï, ça les intéresse pas, eux, d'avoir des followers. Donc, pour elle, la app, c'était que pour le filtre de photos. Donc, moi, je pensais que c'était que les photos. Et je me rappelle, et donc, je vois, machin follows you. Et j'étais sur Instagram avant Chiara Ferragni. Je me rappelle, Chiara Ferragni est venue un mois après moi. Et Instagram, à cette époque, il m'a pas choisi, mais Instagram, à cette époque, avait choisi des gens qui étaient déjà sur Facebook, genre actifs blogueurs sur Facebook, à qui ils ont offert des followers. Donc, ils ont offert 10 000 followers à tel, machin. Et je crois que Chiara Ferragni, ils lui ont offert, je ne sais plus, 50 000 ou un truc du style, 100 000, un truc comme ça. Et moi, bien sûr, à l'époque, tu gagnais des followers hyper facilement. Et j'avais genre 500, tu vois, c'était cool. Et je disais, putain, c'est sympa. Et tu postais ce que tu avais envie, n'importe quoi. C'était génial, tu vois. Et j'avais un blog. J'avais un blog qui s'appelait Miss Paris In, où en fait, je partageais ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, je partageais à l'époque tout ce que je faisais dans la mode. C'est-à-dire, j'allais dans un défilé, je disais, je faisais des vidéos et je uploadais sur mon blog. Alors voilà, aujourd'hui, je suis au défilé de, Elisab. Et je me suis habillée comme ça, il y avait ça, il y avait tel qui était là, il y avait des célébrités, je prenais les photos des célébrités et j'étais à fond. Et j'avais commencé à travailler, j'étais à ce moment-là, je commençais à être attachée de près. Sauf que je travaillais la nuit, je faisais mon blog la nuit. Tu vois, les blogueuses, à l'époque, souvent, elles ne travaillaient pas, elles faisaient ça pour s'amuser. Moi, je venais de commencer à travailler, donc j'étais plus étudiante. Et moi, j'étais à fond dans mon blogging et tout. J'étais vraiment, mais genre à fond. Et je partageais tout. J'allais dans un hôtel. Alors voilà, ça c'est l'hôtel. Regardez, machin, les photos. Ça me prenait un temps de fou. Uploader les photos, les décrire, écrire le texte et tout. Mais j'ai toujours fait ça. J'adorais partager en fait.
Est-ce que tu te donnes des limites dans le partage?
Il y a des trucs, par exemple, je partage beaucoup. La limite, elle dépend par rapport à qui, tu vois. J'aime partager des beaux moments, de bons moments, et parfois même des moins bons moments, mais où je vais parler moi, où je vais raconter mon émotion. Je ne vais pas pécho mon mec devant l'Instagram. Je ne vais pas faire des photos un peu osées, par exemple. J'ai un décolleté naturellement. Franchement, c'est hyper difficile de le cacher. Quand je mets un truc haut, je mets des trucs hauts, mais ça me va moins que quand j'ai un petit décolleté, parce que je n'ai pas une grosse poitrine, mais j'ai une poitrine pas plate. Mais si je vois qu'il est trop profond mon décolleté, je suis un peu gênée. Ça, c'est pas parce que mes parents vont me dire quoi que ce soit. Moi, je suis pas à l'aise. Ça fait genre, j'ai envie d'avoir des likes à cause de mon décolleté, tu vois. Je me sens pas à l'aise. Ou bien mes enfants, par exemple, leurs fesses, c'est un truc qu'on voit régulièrement. Moi, je vais pas montrer leurs fesses sur les réseaux sociaux. Ou ma sœur n'aime pas trop. Ma sœur est très privée, par exemple. Donc, je respecte et je vais pas partager mes neveux sur Instagram, tu vois, des choses comme ça. Mais la limite, c'est la pudeur, en fait. J'aime pas être osée. Mais par rapport à d'autres, je ne serai pas pudique puisque je montre mes enfants, puisque je partage ma vie quotidienne. Bien sûr, là, en ce moment, je ne le fais pas parce que par respect pour les gens qui perdent leur famille et tout ça et leurs enfants. Mais oui, je partage des petits moments parce que c'est toujours sympa et que pour moi, c'est sympa, j'aime bien. Mais aussi, je me suis rendu compte que moi, je le faisais spontanément et naturellement, mais qu'il y avait tellement de filles qui s'identifiaient à moi, qui me disaient « Ah, mais oui, moi aussi, il fait ça, ah, et truc. » Donc, tu vois, après, tu deviens, en fait, tu as une communauté, tu fais plaisir à ta communauté, mais tu te fais aussi pas plaisir, mais pour toi, c'est normal de le faire.
Tu disais, Léa, là, quand tu parlais, tu disais « Je partage sur Instagram les bons moments et pas que les bons moments. » Je rebondis un peu sur ça parce que je trouve qu'Instagram a beaucoup évolué. On est passé d'un Instagram très, très lisse où il n'y avait que du beau et c'était un peu la référence des belles choses. Et ça l'est toujours. Mais je trouve que de plus en plus, depuis quelques temps, on est plus dans la vulnérabilité. Les personnes publiques, en tout cas les personnes comme toi ou d'autres montrent de plus en plus leurs failles. Et il y a un moment qui m'a interpellée dans ton Instagram, c'était la fausse couche que tu as eue et dont tu as parlé. Et je voulais savoir, est-ce que c'était vraiment naturel ou est-ce que tu as réfléchi avant de partager ça, parce que ça dénote par rapport à ce que tu faisais jusque-là?
Alors moi, je partageais par exemple des petits moments de douleur, je me sens pas très bien, ceci, cela. Mais quand je suis tombée finalement enceinte de mes jumelles, après 6 fausses couches, en fait, j'en ai fait 6 entre eux. Adam, il est arrivé en 2 secondes. Et entre les deux, j'ai fait beaucoup de fausses couches où je tombais enceinte, mon ventre grossissait. Et tu fais des plans et tu perds. Et ok, une fois, tu te dis, c'est pas grave. Deux fois, tu te dis, ça arrive à tout le monde. Mais à un moment, tu vois ton corps qui se déforme. Et en fait, quand je suis tombée enceinte et que ça a marché, même au bout du 4e mois, j'ai eu une douleur, mais tellement horrible. Je me rappelle qu'on m'a emmenée aux urgences. Et je me suis dit, ah là, je suis en train de reperdre les bébés. Ça faisait 4 mois et demi que j'étais enceinte. J'ai eu tellement mal. Je me rappelle, mais comme un accouchement, tu vois. J'attendais de voir le sang couler. Et en fait, je suis arrivée, on m'a dit que c'était un truc qui s'est retourné. Pas un bébé, je sais pas. Je me rappelle pas ce qui s'était retourné. Je suis toujours tellement nulle en bio avec tout ce que j'ai eu quand même. Il y a je sais pas ce qu'elle m'a dit. Bref, et donc je suis arrivée à bout, mais avec une grossesse extrêmement douloureuse, extrêmement risquée, où j'ai vraiment failli mourir, où j'étais à l'hôpital pendant un mois et demi. Moi, j'ai failli mourir, pas les bébés, parce que j'avais un placenta previa major, c'est-à-dire très aggravé, où tu pouvais faire une hémorragie d'une seconde à l'autre, perdre tout le sang et mourir. On doit te sauver dans les 15-20 premières minutes, sinon c'est mort. Et donc, dès que j'ai commencé, je perdais un peu de sang, mais dès qu'une fois, j'ai perdu un tout petit peu plus, on m'a dit non, maintenant tu dois rester à l'hôpital. Donc, je suis restée alitée pendant un mois et demi. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Enfin, bien passé. Aujourd'hui, j'ai deux petites filles, donc on ne pense plus à ça, mais je n'oublie pas que j'ai eu une grossesse hyper difficile. Et quand j'accouche, je fais une césarienne qui dure plus d'une heure, alors que normalement c'est 15 minutes, parce qu'elle était dangereuse, et la morphine et tout. Et je me rappelle que j'avais tellement souffert, et j'ai vu les bébés au bout de 2 jours ou un truc comme ça, et j'avais tellement peur de les voir, je les avais vus en photo, je me disais, est-ce qu'elles sont bien, est-ce qu'elles sont en bonne santé, est-ce qu'elles vont vivre, est-ce qu'elles sont déformées, est-ce qu'elles, tu sais. Et elles étaient dans le NICU, la couveuse pendant un mois, et bref, le jour où je rentre à la maison, je te jure, Yanné, vraiment, j'oublierai jamais l'émotion de me dire je n'arrivais pas, je te jure, Bouchra, quand je te dis que je n'arrivais pas à réaliser, je ne pouvais pas imaginer que j'avais vraiment, que Dieu, Yanné, les bénisse, mais que j'avais deux petites filles en bonne santé, mignonnes, en face de moi. Je me disais, il faut que je partage, mais je ne peux pas mentir en disant « Ah, ben, je suis tombée enceinte, j'ai eu deux bébés. » Je n'ai pas en fait réfléchi en me disant « Est-ce que j'ai le droit de partager ? Est-ce que je n'ai pas le droit de partager ? » Est-ce que je me suis dit « Tu sais quoi, Léa ? Il y a tellement de meufs qui souffrent de ça. » Et j'avais autour de moi des copines qui essayaient de tomber enceinte depuis des années, qui n'y arrivaient pas. J'avais même culpabilisé d'être tombée enceinte avant elles, parce que j'avais déjà un enfant. Je me rappelle avoir pleuré quand j'ai appris que j'étais vraiment enceinte, et que certaines copines à moi n'arrivaient toujours pas à être enceintes, je n'osais pas leur dire, et j'en ai chialé en me disant, mon Dieu, comment je vais leur dire, maintenant je sais, et j'avais un enfant, donc t'imagines quand tu n'en as pas. Et je me disais, mais comment annoncer cette joie alors que elle n'y arrive pas. Et ma sœur m'a annoncé qu'elle était enceinte de son premier bébé, sans qu'elle sache que je venais de sortir de l'hôpital quand on et l'aspiration. Elle m'annonce ça le jour même. Et moi, j'ai envie d'être heureuse pour elle. Et en même temps, j'étais en train de chialer. J'étais complètement sonnée. C'était la 4e fois ou un truc comme ça. J'arrive pas à être heureuse pour elle parce que je pleure. Mais en même temps, c'était des sentiments horribles. Vraiment une culpabilité de me dire, merde, j'ai pas pu être heureuse pour elle. Et en même temps, je suis tellement mal. Mon Dieu, pardonnez-moi. C'est vraiment bien. Vraiment difficile. Et donc, quand j'apprends que je suis enceinte et que je ne sais pas comment je vais l'annoncer, et que finalement, je vois ces bébés fast forward chez moi, je me dis, putain, mais il y a tellement de meufs qui souffrent de ça, tellement, mais un truc de fou tellement il y en a, de plus en plus de nos jours. Je dis, tu sais quoi ? Je vais leur dire à toutes ces filles, je veux leur donner espoir. En fait, j'ai pensé à ça. J'ai pensé que je veux leur donner espoir. Je ne veux pas qu'elles croient que, ah, super, Léa, elle a la super belle vie, elle a un fils et maintenant elle a des jumelles et tout va bien. Non, c'était horrible pour moi. J'ai fait 6 fausses couches, j'ai morflé, j'ai pris des piqûres, j'ai fait des piqûres, j'ai grossi, j'ai enflé, j'ai pleuré, j'avais des crises d'angoisse et tout. Et pendant le Covid, j'avais mon fils, et quand j'étais enceinte, je m'en occupais seule, enceinte, dans une, où je me disais, je vais peut-être mourir, je pleurais un jour sur deux, comment je vais m'occuper de lui, qui va s'occuper de lui si je meurs. Donc, quand j'ai ce moment de joie, on dit en arabe « Allah faraja ». Et tu vois, le jour un jad ou « Allah faraja », j'étais tellement reconnaissante, j'ai tellement pleuré. J'ai dit « Moi aussi, je veux aider d'autres filles, alors juste leur donner l'espoir et qu'elles se disent que ça peut leur arriver aussi. Et je suis sûre que ça va leur arriver. » Et donc, j'écris ce post spontanément. Et tu vois pas que j'ai un flot de messages de filles qui me disent oh, yeah, oh my god, moi aussi ça m'est arrivé, etc., etc. Et de ma famille qui me disent mais pourquoi tu parles de ça, mais ça va pas, tu peux pas être, c'est quoi cet étalage de vie privée, c'est, on n'a pas besoin de savoir, etc. Et je dis, je me rappelle avoir dit à ma mère, maman, je suis désolée, mais non, si tu sais, au contraire, ne crois pas que c'est un étalage. Les filles sont vraiment contentes, pas du tout, c'est honteux, je ne sais pas quoi, machin. Et je lui dis non, pas du tout, moi je ne trouve pas ça honteux. Et j'aide des filles à se sentir mieux et avoir de l'espoir qu'elles aussi ça va leur arriver. Si ça m'est arrivé, c'est que ça peut leur arriver. Et là, je répondais. Je n'arrivais plus à suivre le nombre de messages et d'interviews. J'ai été interviewée par Dubaï Madame et j'ai été interviewée par un Instagram qui s'appelle Mama Talks. C'était ses tout débuts et maintenant elle cartonne. Et j'étais interviewée dans un podcast et j'étais interviewée ensuite par un magazine, mais qui me parlait de moi, mais qui me dit est-ce qu'on peut parler de ça. Et là, je me rappelle, elle avait dit non, ça va. Et Madame Figaro, et là, moi, je ne savais pas. En fait, c'était pas encore très fréquent sur Instagram il y a 3 ans. De balancer que tu as des problèmes à avoir, à concevoir. Mais je me rappelle que quand je l'ai fait, ça avait surpris même des copines à moi de Paris qui m'avaient dit « Mais pourquoi tu racontes tout comme ça ?» Tu vois, je leur avais dit ce que je t'ai dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, maintenant, c'est devenu… tu te rends compte combien de filles sont en train de galérer, c'est un truc de malade.
Mais c'est hyper important parce que c'est la réalité et c'est intéressant un peu, je ne sais pas si c'est un conflit générationnel, mais la réaction de ta maman qui est un peu plus âgée. Et clairement, à ce moment-là, on n'en parlait pas, c'était tabou. Et quand ça t'arrivait, bah, tu as l'impression que tu es la seule et que c'est la fin du monde et que c'est le désespoir total et qu'il n'y aura rien. Et c'est cool maintenant que les langues se délient et qu'on entende des histoires. Et comme tu dis, ça donne espoir. Léa, on va passer à un autre sujet. J'aimerais parler de ton job actuel et je vais te laisser peut-être le présenter. Si t'as un dîner et que tu rencontres des gens que tu ne connaissais pas et qui te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds ?
On m'a dit qu'est-ce que tu fais ? Donc je suis artiste de table et je suis créateur de contenu. Je crée du contenu pour les marques de luxe en lifestyle. C'est-à-dire que j'ai deux volets. J'ai un job où on me paye les marques. Alors attention parce que moi, je crée des tables pour les marques de luxe. Je ne fais pas d'événements privés pour des particuliers. Pourquoi ? Parce que j'aime raconter des histoires. Pourquoi ? Parce que je documente sur Instagram. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas dire « elle aime les fleurs blanches, donc j'ai mis des fleurs blanches ». Non, je vais dire « donc si j'ai créé une table pour telle maison, c'est parce que telle maison présentait cette collection m'a inspiré ça, dans l'ADN de la marque, il y avait telle couleur, il y avait tels objets, il y avait telle fleur qui était chère au créateur ». Et donc, j'ai créé une table qui raconte l'histoire de cette marque. Et j'ai un ami attaché de presse ici dans la région, très connu. J'avais une fois Lorient Le Jour qui m'interviewait, le quotidien Lorient Le Jour. Et il m'envoie plein de questions. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je dis sur ça ? Et il m'avait dit, en fait, tu dois dire que tu communiques sur la marque. Tu as un nouveau moyen de communication qui est à travers la table. C'est-à-dire, je communique sur la marque à travers une table où je raconte l'histoire. Tu peux raconter l'histoire d'une marque à travers de multiples façons. Moi, je la raconte à travers une table. Ça, c'est la première chose. Et du coup, maintenant, vu que je documentais spontanément tout sur Instagram, eh ben, y a des marques qui me disent « Ok, ben maintenant, on t'envoie ça. Combien est-ce que je devrais te payer pour que tu me fasses un Reels ou un post en utilisant ces objets ou en racontant l'histoire de la marque ou avec ce vêtement ?» Donc, je crée du contenu pour les marques. C'est une même casquette puisque c'est de ma casquette. Le fait que je sois artiste de table, c'est-à-dire que je crée des tables qui racontent une histoire. En fait, c'est un art éphémère. Donc, c'est un art que tu crées, mais qui est voué à être enlevé juste après. Sauf que c'est un art qui est reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2010.
Et à quel moment tu t'es dit « je vais lancer ça » ? Est-ce que ça a commencé par toi qui partageais tes tables perso pour tes amis, tes invités ? À quel moment il y a eu ce déclic de se dire bah, « il y a potentiellement, c'est quelque chose que j'aime, que je sais faire et je pourrais en faire quelque chose ?»
Jamais j'ai pensé que j'allais un jour être payée pour ça. Jamais de ma vie. Et à chaque fois que j'avais des amis qui venaient, mes parents, mes beaux-parents, qui que ce soit, hein, c'est pas genre « ah, ça va, c'est bon ». Qui que ce soit, il fallait que je crée une table pour leur faire honneur et parce que j'aime ça et parce que j'aime recevoir comme ça. Donc, comme je faisais ça tout le temps et naturellement, mon mari m'a dit « mais quel dommage quand même, hein, tu devrais faire quelque chose, mais ça ne va pas ». Tu devrais appeler des traiteurs, leur dire, quand ils envoient font un catering, ils devraient leur dire, qui te proposent.
Qui rajoutent en option.
Exactement. Je dis, mais ça va pas ou quoi? Mais t'es ouf. Jamais je vais pas me faire payer pour ça. Et je le fais chez moi. Ensuite, des copines attachées de presse, justement, c'est pour ça que je te disais, qui me suivaient, que ce soit à Paris ou à Dubaï, qui me disent, mais Léa, tu dois te faire payer. Tu dois, fais-toi au moins sponsoriser. Quand tu reçois chez toi, comme ça, je dis, ça va pas. Je vais demander aux marques de m'offrir la bouffe ou de m'offrir, j'en sais rien, un truc, alors que c'est chez moi, dans ma maison. Mais ça va pas ou quoi? Mais jamais, mais c'est honteux de faire un truc pareil. Jusqu'au moment où, et je vais la citer parce que tu la connais, j'ai eu deux tables, et c'est l'exemple que je dis à tout le monde parce que vraiment et foncièrement, j'ai fait deux dîners qui ont changé le cours de
De ta vie pro.
Voilà, de mon parcours professionnel. Ou en tout cas, qui m'ont amené à ce parcours professionnel. Donc, je faisais tout par passion jusqu'au moment où j'ai fait deux dîners. Le premier, c'était pour une de mes très, très bonnes copines, Lorena Vergani, qui vit à Paris, qui était mariée, qui était la compagne d'Emmanuel Perrotin, le galeriste d'art Emmanuel Perrotin. Ils sont à Dubaï pendant le Covid. Et elle me dit, je vous invite chez moi. Évidemment, elle me dit, ah, j'aimerais tellement depuis le temps et tout, j'ai envie de venir dîner chez toi. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux dîner? Elle me dit, ah, bah, pourquoi pas indien? On est à Dubaï, pourquoi pas indien? Et là, je crée une table inspirée de l'Inde, sauf que je crée une table inspirée de l'Inde, Bouchra, je te jure, vraiment, Yann, et je ne le dis pas pour frimer ni quoi que ce soit, je vais, comme je faisais exactement avec mes amis, exactement la même chose, sauf que je m'en suis rendu compte à ce moment-là que putain, mais je suis vraiment folle. Je vais à Ras Al Khaimah dans un autre émirat, je vais à Fujairah, je vais à Ajman pour trouver des petits artisans chez qui je vais trouver des objets vraiment atypiques pour faire une table, machin. Je vais chez le fleuriste indien qui va me trouver des colliers, des machins. Et j'invite Lorena et son mari. Et enfin, son compagnon, pardon. Et j'invite deux autres couples qui ne sont pas du tout des célébrités ou quoi que ce soit, juste des amis à moi.
Des amis, oui.
Ils ne sont même pas sur Instagram. Et donc, j'invite ces personnes. On est le Covid bat son plein encore en Europe. Et moi, j'ai un œil, mais genre horrible. Ce jour-là, j'ai été piquée par une moustique ou je ne sais pas quoi. Et donc, je ne suis pas en état, mais je fais cette table et je reçois mes invités avec un chef indien qui crée tout le menu, etc. Et là, bon, tout le monde est content. Mais alors, Emmanuel Perrotin et Lorena, vraiment, ils hallucinent. Et Lorena me fait genre 10 stories. Et Emmanuel Perrotin, je suis en train de filmer ma table. Il me dit, attends, reviens. Et il me dit, ça, c'est de l'art. Ça, c'est de la table. Waouh! Waouh, waouh, ça c'est incroyable, c'est digne d'un je ne sais quoi. Enfin, et je filme et je dis, mais je peux poster. Il me dit, mais évidemment, c'est pour ça que je t'ai demandé d'arrêter. Et là, Instagram, tout le monde, mais comment, mais c'est quoi cette table? Et les Indiens, et c'est quoi? Et comment c'est possible qu'ils dînent chez toi? Et comment machin, etc. Deuxième table, Chourouk. Ma grande amie Chourouk vient à Dubaï. Longtemps, elle me disait, oh là là, qu'est-ce que j'ai envie d'être à un de tes dîners. Je lui dis, toi, viens à Dubaï et après, je te fais un dîner. Et elle me disait, putain, bah, pardon. Elle me dit, ah, mais c'est pas du tout d'actualité, je sais pas quoi, machin. Je dis, merde, j'aimerais vraiment que tu viennes. Bon, imagine-toi que 3 semaines après, elle m'envoie un message en me disant, tu ne vas pas croire, mais je participe à un pop-up et je viens à Dubaï. Et moi, la pression de ma life. Oh my God, je lui ai promis. Là, j'ai plus le choix. Il faut que je passe un dîner. Et là, je fais et il faut que j'invite des gens qu'on connaît en commun. Et comme elle et moi, on travaille dans le milieu, dans l'industrie de la mode, on connaît beaucoup de gens en commun. J'invite des amis qu'elle connaît et que je connais, qui sont des journalistes, le fashion director du Vogue Arabia, la rédac chef de Jamal Oukine, Nadine Kenzo. J'invite des Samira Magroum, que tu connais, enfin, une grande actrice tunisienne. J'invite le cousin de Chourouk, qui est un grand chirurgien plastique ici dans la région, qui s'appelle Dr Shelby, que je ne connaissais pas, mais elle m'a dit, ah, j'en viens, est-ce que tu pourrais l'inviter? Mais je dis, bien sûr. Et donc, j'invite 12 personnes triées sur le volet. J'invite Sofiane, Confused Arab, et je fais un dîner où je m'inspire de Marie-Antoinette, parce que moi, je suis passionnée par Marie-Antoinette. Et elle aussi, elle aime beaucoup Marie-Antoinette et elle aime beaucoup Madame de Pompadour. Et donc, je fais un dîner où je dis, Marie-Antoinette reçoit Madame de Pompadour dans sa maison au bord de la mer en Tunisie. C'était le thème. Et là, je fais le dîner, je fais une recherche, je me dis, il me faut, comment je peux intégrer la Tunisie? Ma table, elle va être, tu vois, chose genre Marie-Antoinette. Je me dis, bah, je vais faire un menu tunisien. Et là, je fais des recherches, je connais pas de chef tunisien. Je fais je te jure, vraiment pour moi, c'est ouf. Je fais une recherche sur Google et il parle d'un resto. Je dis, bon, bah, je vais appeler le resto, je vais commander chez eux. Je l'appelle le resto. Je dis, est-ce que je peux parler au chef, s'il vous plaît? On m'a dit oui. Putain, il est accessible, le chef, c'est ouf. Donc, je parle au chef. Et de fil en aiguille, très sympa, le chef. Je lui dis, voilà, j'ai une copine, c'est une créatrice de bijoux, très connue en France et en Tunisie, machin, j'aimerais lui faire un dîner. Est-ce que vous voudriez bien cuisiner? Attention, moi, je veux le payer. Faire le dîner pour nous, etc. Combien ça nous coûterait, machin. Au bout de la conversation, il m'a dit « Check mon Instagram. Tu sais, moi, je fais Abu Dhabi TV. Je check son Instagram. Le mec, il a 400 000 followers.
Ouais, il est méga.
Tu le connais? C'est un grand chef. Il y en a connu chez les femmes tunisiennes.
Oui, oui.
Taïsir.
Taïsir, oui.
Et à un moment, je dis « Taïsir, je suis désolée, mais j'ai telle personne qui vient et tout. Est-ce que c'est sûr vous allez faire le dîner? » Parce que
T'as pas de plan B.
Parce qu'il était tellement enthousiaste. Finalement, il me dit mais bien sûr, ma chérie, arrête de stresser. Bien sûr que je vais faire le dîner. Tu sais, elle est tunisienne. Moi, j'adore Chourouk. Samira Magroum, c'est ma grande copine. Et tout le monde vient tout le temps manger dans mon restaurant. Et putain. Et en fait, le mec, c'est tellement une star chez les Tunisiens. Il arrive avec toute son équipe. Bouchra, genre. Je te jure, j'ai peut-être 5 personnes, enfin pas toute l'équipe, mais quand même 5 personnes qui débarquent. Il me fait un couscous aux fruits de mer. C'est une de ses inventions, d'après ce qu'il m'a dit. Il fait un menu tunisien, mais un peu francisé. Donc, il a compris exactement ce que je lui ai demandé. Et le mec n'a pas accepté que je le paye. Il me dit, je suis tellement fière que, tu vois, de Chourouk et de toute cette crowd qu'il y avait, etc.
Et puis l'image que ça reflète aussi, c'est une bien, table sûrement. Qui met en lumière aussi la cuisine tunisienne, oui. C'est une manière de promouvoir.
Voilà, il l'a promue vraiment hyper bien parce que c'était super bien présenté, c'était hyper beau, c'était hyper bon, il était hyper sympathique. Et j'ai commencé à le suivre sur Instagram et je me rends compte que c'est un truc de fou. Et Chourouk, je l'avais tagué ou elle l'avait tagué, je ne sais plus, elle me dit « Ouh là là, il y a tout le monde qui me demande comment ça se fait que je connais Taïsir. Bout Taïsir, il est chez toi. » Je ne sais pas quoi. Non, mais à ce point, c'est un truc. Et ta mère qui lui dit « Quoi ? Il y a Taïsir qui est chez Léa ? Comment c'est possible ?» Donc en fait, beaucoup les mamans le suivent, tu vois, apparemment. Et ça, c'était un boom parce que et je suis le conseil d'une de mes copines attachée de presse qui m'a dit « Mais demande un sponsoring. » J'appelle la durée et j'expose. Je leur dis « Voilà, j'organise un dîner, il y aura tel. Est-ce que peut-être je vous envoie mon mood board, c'est Marie-Antoinette. Peut-être que vous avez envie de m'envoyer des macarons. » Je fais la sélection de mon choix. Le jour J, j'ouvre la porte. La durée est là. Il y a toute ma sélection qui est là. Le gâteau Marie-Antoinette. Deux pyramides mariage, les petites pyramides, Bliss, le fleuriste, le plus grand fleuriste ici, un des plus grands fleuristes à Dubaï, qui me fait mes fleurs. J'ai voulu faire des fleurs inspirées par la tête de lit de Marie-Antoinette. Ils me font le bouquet, mais j'arrange le bouquet pour reproduire vraiment exactement la même chose. Bref, et là, tous les invités qu'il y avait, qui sont des gens très connus dans l'industrie de la mode, tout le monde tag, tout le monde fait des stories, tout le monde machin. Et là, je te jure, là, c'était en mai. Et après, bon, bah, c'était les vacances. Tout le monde me parle de ça. On rentre septembre, octobre, fin octobre, il y a Swarovski qui m'appelle pour me dire, voilà, on lance la nouvelle image de Swarovski par Giovanna Battaglia et on aimerait te rencontrer pour voir est-ce que tu peux nous créer les tables de Swarovski et on voudrait que tu parles on stage pendant le dîner de gala et que tu racontes comment tu crées tes tables. Et voilà. Combien tu charges ? Ah ben, je ne sais pas. Franchement, je leur ai dit, honnêtement, je ne sais pas. Je dois réfléchir. Et voilà.
Génial. Et puis, ça, après, c'était la porte ouverte à plein d'autres super collabs. Voilà. Mont Blanc, Dior, pour ne citer que celle-là. Ah, génial.
J'en ai vraiment plusieurs. Je ne me rappelle même plus parfois, mais vraiment beaucoup, beaucoup de marques m'ont fait confiance. Et si ce n'est pas pour la création d'un dîner, c'est pour la création de contenu. Donc, voilà.
Si je te demandais la définition de la réussite, Léa, ce serait quoi pour toi ?
Je sais que je vais commencer par un grand cliché, mais je te jure que je le pense de tout mon cœur et encore et plus aujourd'hui que jamais. J'aimerais que Dieu me donne la chance de vieillir à côté, avec mon mari, de vieillir vraiment de vieillir à côté de nos enfants en bonne santé. Vraiment, je te jure, moi, ça devient tellement incroyable de réussir ça, avec tout ce qu'on voit, que vraiment, ça, c'est plus qu'une réussite, c'est mon rêve. Mais si tu me demandes ma réussite professionnelle, d'accord, ça serait soit de devenir la directrice artistique d'une grande maison, de m'occuper de leur ligne maison, soit de faire des grandes collaborations. Je sais pas, par exemple, Bernardo qui me demande de créer avec eux une collection et voilà, et le faire. Et j'aimerais aussi que ma marque soit. En fait, j'ai créé cette marque pour que les filles se disent, ce n'est pas réservé aux autres et aux grandes familles et à l'aristocratie, d'avoir de belles tables chez soi tout le temps et d'avoir de belles choses accessibles. Parce que moi, je fais des produits qui sont des produits très humblement, mais presque de luxe. Ce n'est pas des produits de luxe, parce que le luxe, c'est la marque que tu payes, à tout. Mais des produits qui ont la qualité 80% de luxe, mais qui sont accessibles parce que je veux apprendre, je le dis sans prétention, aux filles à être entourée de beau et pouvoir recevoir chez elles d'une manière hyper belle, d'habiller leur table d'une belle manière, sans que ça leur coûte cher, et en se disant, moi aussi, je peux le faire, et que ça se transmette de génération en génération.
Si tu devais parler à la petite Léa de 7 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Que tu avais raison de jamais, 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 jamais baisser les bras. Que vraiment, quand on te dit que c'est impossible, non, tout est possible. Et n'abandonne jamais, va. T'as bien fait d'aller toujours au bout de tes rêves et de tout le temps faire monter tes rêves d'un cran. parce que tu peux toujours y arriver. Parce que c'est vrai que si tu veux, tu peux toujours y arriver.
Est-ce que tu as une devise ?
Oui, la patience est la plus grande des vertus. Tu ne peux rien avoir sans la patience.
Un livre ?
La sagesse des loups.
Un lieu ?
Mon village au Liban, Reifoun.
Un compte Insta dont tu ne pourrais pas te passer ?
Alors, je ne peux pas dire que je suis tout le temps dessus, mais j'aime beaucoup le compte Instagram de Chourouk. Il est hyper inspiring. Et un compte Instagram dont je ne peux pas me passer... j'aime beaucoup Cordelia de Castellane, de Dior, la directrice artistique de Dior. J'adore son compte, qui est très classique.
Une chanson ?
Libayrout, de Fayrouz.
Et une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast ou dont tu aimerais écouter le parcours ?
Je suis désolée, je sais que c'est classique et il y en a plein sûrement qui doivent lui demander, mais Léa Salamé.
Je te remercie infiniment, Léa. C'était un vrai plaisir de papoter avec toi.
Merci à toi.
Cet épisode de Heya est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout, ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heya_podcast. À très bientôt.